Voilà, et nous allons lire maintenant les passages sur lesquels la prédication se basera. Nous allons dans le livre des Juges, au chapitre 10, et nous commencerons donc à partir du verset 6.
Alors, Juges 10, versets 6 et 7. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ensuite, on passe toujours au chapitre 10, au verset 15 à 17. Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. » Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché par la souffrance d'Israël. Les Ammonites se rassemblèrent et installèrent leur camp en Galad. De leur côté, les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mitzpah. On passe au chapitre 11, les versets 29 à 33. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephté. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minith, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. On passe maintenant au chapitre 12, versets 1 et verset 7. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelé à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Verset 7. Jephté fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephté, le Galadite, mourut et il fut enterré dans l'une des villes de Galad. Et dans Hébreux 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères.
Avez-vous vu les belles couleurs d'automne? Il y en a un exemple ici d'ailleurs. Et je les aime tout particulièrement, surtout au lever, au coucher du soleil où les teintes sont mises en valeur. Eh bien aujourd'hui, si nous entrons dans cette prédication sans l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, c'est comme si nous regardions cette beauté automnale en étant aveugles. Nous ne verrions en fait que des ténèbres. Eh bien, je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux face à ce livre des juges qu'il a inspiré pour notre édification, afin que nous puissions y voir ses couleurs telles que lui le désire. Nous suivons actuellement le cheminement du livre des juges dans la prédication exposition de la parole de Dieu. Et lors de la dernière prédication, nous avons parlé, vous souvenez, d'Abimélec. L'anti-juge, non appelé par Dieu, qui a voulu jouer au roi. Ce fut un tyran sanguinaire qui tua beaucoup de personnes sans exercer la justice. Et il est mort dans la honte alors qu'il voulait montrer sa force. En fait, Abimélec est l'inverse total de ce dont le peuple a besoin. Heureusement, l'Éternel, dans sa bienveillance, fait lever un juge pour sauver Israël. Tola, Ah oui, regardez dans Juges 10, hein, votre Bible vous sera utile. Juges 10, verset 1. Dieu a fait lever Tola pour sauver Israël. Être un libérateur est en fait la caractéristique principale de ceux que l'on appelle juges dans ce livre biblique qui nous occupe actuellement. Mais malheureusement, les deux juges après le faussaire Abimélec, Tola et Yaïr, s'ils amènent une stabilité au pays, n'arrivent pas à transformer le cœur du peuple. Et le verset 6 du chapitre 6 des juges résonne comme un écho tout au long de ce livre. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais cette fois, c'est pire. Le nombre d'idoles mentionnées montre que le rejet de Dieu est total. Et pourtant, ils voudront revenir à lui. Tout à l'heure, nous n'avons pas lu les chapitres 10 à 12 pour ne pas allonger la lecture. Mais j'espère que vous avez lu ces chapitres avant la prédication. Nous ne pouvons pas avoir tous les détails hein, sans lire ce texte dans son ensemble. Mais pour avoir quand même une vue d'ensemble, voici un petit résumé de ce récit. Premièrement, comme nous voyons, le peuple se détourne de l'Éternel qui les livre aux Philistins et aux Ammonites. Le peuple crie à l'Éternel en disant qu'ils ont mal fait. L'Éternel dit qu'il a souvent sauvé le peuple, mais celui-ci l'a abandonné et Dieu ne veut pas les sauver. Le peuple accepte le jugement de Dieu, se débarrasse de ses idoles et l'Éternel est touché par les maux d'Israël. Les anciens de Galade vont chercher Jephté, qui avait été rejeté par ses frères. Et Dieu, par lui, donnera la victoire, comme nous le verrons. Et tous ces éléments nourriront notre premier point, que j'intitule « Appel au rejeté ». On va faire appel à celui qui était rejeté. Continuons le récit. Donc, Jephté envoie un message à l'ennemi afin qu'il dévoile ses intentions. Et l'ennemi répond qu'il veut régner sur ce qui lui appartient. Et la Jephté lui envoie un second message qui lui démontre qu'il n'a aucun droit sur ces pays. Jephté dit clairement à l'ennemi que c'est lui qui agit mal et en appelle au jugement de Dieu. L'ennemi n'écoute pas et l'Esprit de Dieu donc est sur Jephté qui va combattre cet ennemi que l'Éternel lui livre entre ses mains. Tous ces éléments nourriront notre deuxième point intitulé « L'ennemi face à ses responsabilités ». Continuons le récit. Avant de partir contre les ennemis, Jephté promet un sacrifice humain en cas de victoire. Lors du retour de la victoire, Jephté accomplit sa promesse. La fille de Jephté reconnaît l'œuvre de l'Éternel, respecte la parole de son père et montre une soumission exemplaire. Et la fille de Jephté est célébrée. Et tout cela fera l'objet de notre troisième point qui s'intitule « Un sacrifice pour une victoire ». Terminons le récit. Les hommes d'Éphraïm, donc de l'autre côté du Jourdain, viennent, se déplacent de l'autre côté du Jourdain où était Jephté pour le tuer. Ces rebelles sont orgueilleux, menteurs et moqueurs. Jephté agit alors comme juge et met à mort les rebelles qui l'attaquent. Les rebelles ne se repentent pas et aimeraient rentrer chez eux sans se faire voir. Mais leur identité est trahie par leur accent. Ce sera l'objet de notre dernier point qui s'intitulera « Une parole qui révèle son accent ». Voilà, voilà le menu. Donc toute l'histoire est dans ce menu. L'appel au rejeté en premier, ensuite l'ennemi face à ses responsabilités, un sacrifice pour une victoire et une parole qui révèle son accent. Donc commençons par cet appel au rejeté. Israël fait encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais comme je l'ai dit en introduction, cette fois c'est pire. Les autres fois, c'est un ou deux faux dieux qui sont nommés. Ici, nous avons la mention de sept idoles. Sept idoles. Or, le chiffre 7 indique la totalité dans la Bible. Quand on utilise le chiffre 7, c'est pour dire la totalité. C'est comme si l'auteur disait que Israël a rendu des cultes à tous les faux dieux qu'il pouvait. Ce 7 qui indique la totalité, c'est comme si l'auteur disait que Israël avait rendu un culte à tous les faux dieux qu'il pouvait. C'est le rejet total de l'Éternel. Le rejet total de l'Éternel. Alors, chaque fois que le peuple cherchait à vivre quelque chose de spirituel, si vous voulez, hein, il cherchait ailleurs qu'en l'Éternel. On pourrait dire qu'il se donnait beaucoup de peine pour ne pas se tourner vers le Créateur. Nous avons déjà vu ensemble que la correction de Dieu montre sa miséricorde pour son peuple. Parce qu'il, s'il n'avait pas de miséricorde, il le détruirait tout simplement d'un coup. Non, Dieu, dans sa juste colère, soumet son peuple à la souffrance pour qu'il revienne à lui. Et il faut ici 18 ans et une grande détresse pour que le peuple se tourne enfin vers l'Éternel. Et voici ce que dit le peuple dans Juges 10. Regardez dans vos Bibles au verset 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. » Un appel est adressé à l'Éternel. Les Israélites semblent reconnaître leur erreur, vous êtes d'accord ici? Mais la réponse de l'Éternel montre qu'il y a un problème. Peut-être vous vous souvenez qu'à l'époque de Gédéon, lorsque le peuple s'était détourné de l'Éternel, Dieu avait envoyé un prophète pour leur dire pourquoi ils étaient dans cette situation-là, pour indiquer sa culpabilité. Et nous avions souligné l'importance de changer, qui est un changement intérieur. Ici, c'est Dieu lui-même qui répond à son peuple. Regardez avec moi, Juges 10, verset 11. L'Éternel dit aux Israélites, « Des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Mahon vous ont opprimés, et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez rendu un culte à d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'il vous sauve au temps de votre détresse. » Ici, Dieu dit qu'il a délivré son peuple dans le passé. Et d'ailleurs intéressant de remarquer que l'Éternel cite 7 oppresseurs desquels il les a sauvés. 7 oppresseurs desquels il les a sauvés. Vous vous souvenez, le chiffre 7 indique la totalité. Hein? Le chiffre 7 indique la totalité. Cela signifie que Dieu les a toujours délivrés. Dieu les a toujours délivrés. Et connaissant ces délivrances, le peuple a totalement rejeté Dieu. Dieu le met donc devant sa responsabilité d'aller demander de l'aide au Dieu qu'ils ont, à qui ils sont allés pour le remplacer. Ok, allez leur demander de l'aide alors. Et là, les Israélites comprennent qu'ils ne se sont pas repentis. Qu'en fait, ils ne font que regretter les conséquences de leur péché. Jusque-là, ils ne regrettaient pas d'être allés vers les faux dieux. Parce qu'ils les avaient gardés chez eux, en fait. Ils avaient bien dit à Dieu, on s'est trompé, on a fait faux. Mais ils avaient gardé les dieux chez eux. Jusque-là, même s'ils disaient qu'ils avaient mal fait, ils demandaient en fait à Dieu d'enlever leurs problèmes sans reconnaître qu'il agissait avec justice et miséricorde envers eux. Et ils ne le voulaient pas comme chef. Viens juste nous délivrer et puis on continuera notre vie. Et c'est là que le peuple, quand il a compris ça, répond à l'Éternel ce que nous sommes appelés à répondre lorsque nous nous repentons réellement de nos péchés. Regardez le verset 15 et 16, et nous allons reconnaître dans ces deux versets 5 actions que le peuple fait et que nous sommes appelés à vivre. Verset 15. Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. 5 actions que nous trouvons ici, dans ce texte. La première, c'est qu'ils reconnaissent leur péché sans rien excuser. Ils reconnaissent leur péché sans rien excuser. Deuxièmement, ils reconnaissent que Dieu a le droit d'agir. Ils reconnaissent qu'il a le droit d'agir comme il veut, de les juger et qu'ils n'ont pas d'ordre à lui donner. Ils reconnaissent que Dieu a tous les droits d'agir comme il veut, de les juger, et qu'ils n'ont pas d'ordre à lui donner. Troisièmement, ils font appel à sa grâce pour les délivrer. Ils font appel à sa grâce pour les délivrer. Ils ne sont plus en train de dire, ben, délivre-nous, vas-y. Non, ils font appel à sa grâce. Quatrièmement, ils ôtent les dieux étrangers. Ils les ôtent. Ils ne reconnaissent pas seulement leur faute en espérant que Dieu leur pardonnera tout en continuant de commettre la faute. Non, ils se débarrassent des dieux étrangers. Ils ôte les dieux étrangers, il se débarrasse des dieux étrangers. Et cinquièmement, ils servent l'Éternel. Ils servent l'Éternel. Ils cherchent à le connaître. Ils veulent vivre selon sa parole. Et l'Éternel est touché par les mots des Israélites. C'est la fin du verset 16 que je n'ai pas lu tout à l'heure, verset 16. Hein. L'Éternel qui fut touché des mots d'Israël. Il est intéressant de noter ici que Dieu n'est pas touché par la repentance, mais par les mots d'Israël. Et je crois que cette nuance est là pour nous indiquer que notre espoir ne réside pas dans notre repentance, mais dans l'intensité de la compassion de Dieu. La repentance est une condition, mais pas la cause de la faveur de Dieu. Comprenez, hein, la repentance est une condition, doit être là, mais ce n'est pas la cause de la faveur de Dieu retrouvée. Dieu est affligé par l'affliction subie par son peuple qui lui est de nouveau fidèle. Pour illustrer cela, je vais simplement prendre l'illustration du livre des juges lui-même. En fait, on a ici dedans une illustration de cette relation entre Dieu et son peuple. Cette illustration, c'est la relation de Jephté avec le peuple. Jephté est rejeté par ses frères. Ils ne veulent pas qu'il reçoive quoi que ce soit de la maison de leur père, comme le peuple avait rejeté Dieu, pour qu'ils ne reçoivent rien de la maison de leur père. Ils ont chassé Dieu, ils l'ont remplacé par des faux dieux, pour ne pas lui donner l'adoration et la reconnaissance. Et dans la détresse, ils cherchent quelqu'un qui est fort, qui a prouvé qu'il peut les aider. Et Jephté est devenu responsable de bande, comme David l'a été lorsqu'il fuyait Saül. Vous vous souvenez peut-être, David, lorsqu'il fuyait Saül, il était entouré de personnes, et puis il était donc chef de bande, et il allait faire des incursions vers les peuples que Israël aurait dû chasser de Canaan. Et Jephté l'a prouvé par ses campagnes, qui étaient sûrement similaires à celles de David, face au peuple qui devait être chassé de Canaan. Certains disent que c'était un vaurien, un criminel, Jephté, mais je pense que ce n'est pas vrai. Sinon, les anciens de Galaad ne seraient pas allés le chercher. Il n'y aurait pas une preuve qu'il pouvait conduire le peuple. Et Jephté répond au peuple. Il dit, mais n'avez-vous pas de la haine pour moi? Vous m'avez rejeté, maintenant vous venez me chercher? J'ai aucune raison de revenir chez vous. Ça vous dit quelque chose de ce que Dieu a dit à son peuple? Mais le peuple insiste et indique qu'ils veulent que Jephté les dirige. Et après discussion, ils indiquent qu'ils ne veulent pas seulement que Jephté les guide vers la victoire face aux ennemis, mais qu'ils deviennent leur chef. En passant, nous voyons d'ailleurs qu'ils ont tenu parole, puisque dans Juges 12, 7, il est dit que Jephté a été enterré au milieu des villes de Galaad. Jephté montre par son attitude qu'il n'est pas rancunier. Il est prêt à pardonner au peuple qui manifeste de la loyauté. Jephté est un homme, donc une illustration limitée, mais qui nous permet de comprendre l'attitude de Dieu qui, lui, sera dénué de péché et sans limitation. Cette première partie nous permet de comprendre la grâce de Dieu qui nous dépasse. Le peuple s'était totalement détourné. Et quand il revient réellement à Dieu, c'est-à-dire qu'il manifeste pratiquement qu'il se détourne de son péché, Dieu ne le rejette pas. Nous pouvons donc, avec ceci, nous rappeler de ne jamais hésiter de revenir à Dieu. N'hésitons jamais de revenir à Dieu. Même si nous avons gravement péché, faisons-le en abandonnant réellement notre péché. N'hésitons jamais à revenir à Dieu, et même si nous avons gravement péché, eh bien, revenons à Dieu en abandonnant réellement notre péché. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui vit en couple avec une femme sans être marié, et qui dit, j'espère que Dieu me pardonnera. Mais Dieu ne pardonne pas celui qui reste dans son péché, qui ne cherche pas à s'en détourner, il veut simplement que les conséquences éternelles soient écartées. Avec Dieu, ce n'est jamais « on verra s'il ne me pardonne, continuons à pécher ». Non, c'est jamais comme ça. Mais je me remets au juste jugement de Dieu, je me détourne de mon péché et je mets mon espoir dans l'œuvre de Christ qui est mon chef. C'est pas « j'espère qu'il me pardonnera ». Voilà donc un point important que nous pouvons apprendre de cette première partie intitulée « Appel au rejeté ». Allons maintenant voir ce que fera Jephté. Jephté veut dire « il ouvrira, il libérera ». C'est ce que veut dire son nom. Deuxième point, l'ennemi face à ses responsabilités. Nous voyons ici, dans ce point, que Jephté renverse la responsabilité que l'ennemi voudrait lui faire porter. Jephté renverse, je vais vous l'expliquer, renverse la responsabilité que l'ennemi voudrait lui faire porter. En fait, les Ammonites ont une mauvaise intention. Ils veulent s'approprier les richesses qui ne leur appartiennent pas et ils utilisent le mensonge pour l'obtenir. Et Jephté répond clairement qu'ils n'ont aucun droit historique, spirituel, militaire et politique sur le pays qu'ils convoitent. Historiquement, parce que les Amoréens disent « Ouais, mais c'est un pays qui nous appartenait, il faut nous le redonner. » Mais historiquement, le pays n'appartenait pas aux Ammonites, mais aux Amoréens. C'est donc faux de dire qu'il doit redonner ce qui leur appartenait. De plus, et Jephté l'explique, Israël n'avait pas l'intention de conquérir cette partie. Mais le roi de l'époque, Sion, en fait, n'a pas voulu les laisser passer. Et non seulement cela, il les a attaqués pour les détruire. Et c'est ainsi que Israël a pris possession de ces lieux face à la provocation de l'ennemi qui voulait les détruire. Spirituellement, le pays a été donné par l'Éternel, le seul vrai Dieu. C'est donc faux de croire qu'une idole inerte peut donner la possession d'une région. Militairement, Jephté rappelle que Balak, le roi de Moab, n'a pas fait la guerre à Israël et qu'il n'a même pas pu contester devant Dieu de la présence de ce peuple. Vous pouvez relire l'histoire de Balaam, où il aurait voulu même maudire ce peuple et il n'a même pas pu le faire, malgré qu'il a voulu utiliser un devin qui voulait être de son côté. C'est donc faux de croire que des forces militaires ont cherché à reprendre le pays. Et pour finir, politiquement, il n'y a eu aucune revendication de ce pays depuis 300 ans que le peuple y habite par les Ammonites. C'est donc faux de croire que depuis toujours, les Ammonites voulaient ce pays. En fait, ce qui est vrai, c'est que le roi Ammonite agit mal envers Israël et qu'il est responsable de la guerre et non Israël. Ce qui est vrai, c'est que le roi Ammonite agit mal envers Israël et qu'il est responsable de la guerre et non Israël. En fait, le roi Ammonite veut dire « c'est votre faute qu'il y a la guerre ». Vous devrez me donner ce que vous m'avez piqué si on parle un peu jaune. C'est pas vrai. Et Jephté s'en remet au jugement de Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et l'Éternel livra les Ammonites en ses mains. Et la remarque qui indique que 20 villes ont été battues démontre une très large victoire. C'est pas seulement une petite bataille gagnée, mais une victoire complète. Or, Jephté ici montre l'exemple de mettre la vérité sur la table en incluant l'œuvre de Dieu et il responsabilise ceux qui font véritablement le mal. En fait, mettre la vérité en lumière permet deux choses. La première, c'est appeler ceux qui pêchent à s'arrêter dans leur erreur, dont ils n'étaient pas forcément conscients, pour s'en détourner. Donc, exposer la vérité permet d'appeler ceux qui pêchent à s'arrêter dans leurs erreurs, dont ils n'étaient pas forcément conscients, et de s'en repentir. Et deuxièmement, cela permet de fortifier ceux qui sont dans la vérité, afin qu'ils ne se laissent pas décourager par de fausses accusations. Parfois, il faut simplement mettre la vérité en valeur, pour que ceux qui suivent la vérité ne soient pas découragés. Or là, deux questions que nous pouvons prendre pour nous. Écoutons-nous lorsque quelqu'un expose la vérité et nous met en garde? Ou faisons-nous comme le roi Ammonite qui n'a rien répondu et qui a été au combat, qui ne s'est pas repenti? Et deuxièmement, rappelons-nous les faits véritables en incluant l'œuvre de Dieu et en responsabilisant ceux qui font le mal? Ou nous taisons-nous et ne disons-nous pas la vérité? Approchons-nous maintenant de ce que Jephté a dit avant de partir pour le combat et ce qui s'est passé lors de son retour. Un sacrifice pour une victoire. C'est souvent ce à quoi on pense quand on pense à Jephté. Jephté promet un sacrifice humain à l'Éternel en cas de victoire. Alors avant de parler de la situation même avec Jephté, ce sacrifice humain annoncé me fait penser à deux autres sacrifices humains qui ont été faits à l'Éternel. Le premier est celui que Dieu demande à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a pris l'initiative, contrairement à Jephté ici. Mais ce sacrifice est demandé pour une victoire. L'acceptation d'offrir Isaac en sacrifice a amené la victoire sur l'incrédulité. En fait, la foi d'Abraham a été manifestée à son plus haut point à ce moment-là. Et Dieu arrêta la main d'Abraham en donnant un substitut. Le deuxième sacrifice humain est celui de Dieu qui offre Jésus-Christ. Ce sacrifice a amené à la victoire sur le péché et la mort. C'est le seul sacrifice humain approuvé par Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Et il faut comprendre, ce n'était pas un sacrifice pour une reconnaissance, mais c'était un sacrifice dû au jugement. L'horreur, à juste titre, d'imaginer Jephté en train d'offrir sa fille en sacrifice sur l'autel, c'est juste d'avoir ça en horreur. Et j'espère que vous avez ça en horreur. L'horreur, à juste titre, d'imaginer Jephté en train d'offrir sa fille en sacrifice sur un autel, doit nous aider à comprendre l'horreur de la croix, où Jésus a, lui, été véritablement offert en sacrifice. Simplement le fait d'imaginer cela devrait nous aider à comprendre l'horreur de la croix où Jésus a véritablement été offert en sacrifice. Pour la fille de Jephté, en dehors de cette imagination suscitée par le texte qui nous pousse à réfléchir au sacrifice auquel Dieu a consenti, je ne peux pas croire que Jephté, sur lequel l'Esprit de l'Éternel a été placé, à qui Dieu a été placé avant qu'il fasse ce vœu, à qui Dieu a livré le peuple après qu'il ait fait ce vœu, ait fait ce qui est totalement contre ce que la loi de Dieu exigeait. Une loi qu'il connaissait. Il l'a prouvé par le message qu'il a annoncé au roi Ammonite, qu'il connaissait l'histoire d'Israël. Et la Bible est parfaitement claire sur ce sujet. En dehors d'un juste jugement, l'homme a l'interdiction de toucher à la vie d'une personne, car nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est clairement décrit dans Genèse 9. De plus, le Lévitique et Deutéronome indiquent clairement l'horreur que l'Éternel a pour la pratique des sacrifices humains et ordonne à son peuple de ne pas imiter ces pratiques, ce qui signifie qu'il n'accepte pas non plus un sacrifice humain sanglant pour lui-même. Et d'ailleurs, les seuls sacrifices humains explicites en Israël, avec le roi Ahaz entre autres, sont décrits avec horreur, indignation et totale désapprobation. C'est vrai par contre qu'il ne me semble pas possible, même après avoir tourné cette histoire dans tous les sens, de prouver ce que Jephté a fait. J'arrive pas à vous le prouver. Mais ce que je viens de vous dire par rapport à cette interdiction du sacrifice humain dans la loi est pour moi déterminant. Et le fait que la fille de Jephté pleure sa virginité et non sa mort ajoute encore à l'idée que Jephté n'a pas tué sa fille sur un autel, mais l'a entièrement consacré à l'Éternel. Et je me joins à ce que dit Matthew Henry, qui dit ceci, « Difficile à dire ce que Jephté a fait pour respecter son engagement. On peut supposer qu'il n'offrit pas sa fille en holocauste. Un tel sacrifice eût été en effet une abomination à l'Éternel. Il est vraisemblable qu'il ait obligé sa fille au célibat. » Il y a bien des questions qui restent sans réponse. J'en ai quelques-unes. Pourquoi Jephté a-t-il fait ce vœu puisque l'Éternel était avec lui et que nous n'avons pas à marchander avec Dieu? Pourquoi? Peut-être voulait-il montrer qu'il donnait le meilleur de ce qu'il avait. Il pouvait savoir qui allait sortir de la ville, quelqu'un de proche de lui, quand il reviendrait victorieux. Mais pourquoi? Pourquoi Jephté fait-il le vœu d'offrir une personne en holocauste? N'aurait-il pas pu offrir autre chose? Je n'ai pas la réponse. Comment est-il possible que Jephté puisse changer l'offrande en holocauste en consécration à vie sans manquer à son vœu? Ou est-ce que la consécration de la fille de Jephté est semblable à celle de Samuel par Anne, qui a offert à Dieu Samuel en reconnaissance à la réponse à ses prières? Or si c'est le cas, cela nous aiderait à comprendre que la fille de Jephté est consacrée au service du tabernacle, mais n'explique pas sa virginité, parce que Samuel, lui, a eu des enfants. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses. Mais le vœu de Jephté nous apprend plusieurs choses. La première, c'est au niveau de la préfiguration. Il annonce le sacrifice d'un être unique et cher pour une victoire éclatante. Ça, c'est une préfiguration de Christ. Au niveau de l'engagement, il nous apprend que l'on ne peut pas prendre des engagements devant Dieu et revenir en arrière. On ne joue pas avec la parole devant Dieu. Au niveau de l'engagement, il nous apprend qu'on ne peut pas prendre des engagements devant Dieu et revenir en arrière. C'est ce qui est dit dans Deutéronome 23, 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché, mais tu observeras et tu exécuteras ce qui est sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Donc au niveau de l'engagement, cela nous apprend que l'on ne peut pas prendre des engagements devant Dieu et revenir en arrière. Ensuite, la difficulté de l'engagement ne l'empêche pas de tenir parole. Psaume 15, verset 4 nous parle du juste. Le juste repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Donc la difficulté de l'engagement ne l'empêche pas de tenir parole. Et au niveau du contenu de l'engagement, il nous apprend qu'il faut bien réfléchir aux conséquences avant de s'engager. Et nous pouvons faire nôtre cette prière du psaume 141, verset 3. « Éternel, veille sur ma bouche et garde les portes de mes lèvres. » Éternel, veille sur ma bouche et garde les portes de mes lèvres. Donc au niveau du contenu de l'engagement, il nous apprend qu'il faut bien réfléchir aux conséquences avant de s'engager. C'est vrai que la fille de Jephté, là je ne vais pas pouvoir beaucoup développer, mais quand même la fille de Jephté nous montre plusieurs qualités. La première, elle célèbre la victoire de l'Éternel. Elle reconnaît que c'est l'Éternel qui a été victorieux. Elle invite son père à tenir parole. Elle reconnaît la main de l'Éternel dans la victoire de son père. Elle fait une demande pleine de respect. Et elle est totalement soumise à son père et revient à lui. Là, on pourrait faire tout un temps de réflexion autour de ces qualités que Dieu a données à cette jeune fille. Mais le texte ne finit pas avec le vœu de Jephté et sa réalisation. Souvent, nous ne pensons qu'au vœu de Jephté lorsque nous pensons à lui. C'est vrai que c'est un élément important de sa vie, mais ce n'est pas tout, comme nous l'avons déjà vu dans les deux premiers points. Et nous le voyons dans le dernier que nous approchons maintenant, qui souligne que dans ce texte où Jephté est actif, Dieu veut montrer que le cœur est dévoilé par l'accent. Une parole qui révèle son accent. Les Éphraïmites sont orgueilleux, menteurs et moqueurs. Les Éphraïmites sont orgueilleux, menteurs et moqueurs. Ils sont orgueilleux et prétentieux car ils font croire qu'ils étaient indispensables pour combattre les ennemis. Ils sont menteurs parce qu'ils font croire que Jephté ne les a pas appelés alors que c'est eux qui ne sont pas venus. Et ils sont moqueurs, car ils disent que les gens de Galaad sont des fugitifs. Ils les traitent d'étrangers et les dénigrent en ne considérant pas leur tribu. Certainement parce qu'ils sont de l'autre côté du Jourdain. Les Éphraïmites sont orgueilleux, menteurs et moqueurs. Et Jephté, dans cette occasion, va agir en tant que juge. Alors certains disent qu'il aurait dû faire comme Gédéon. Vous vous souvenez, il y a déjà un petit problème avec les Éphraïmites, qui était venu vers Gédéon, qui dit « Nous, on voulait être du combat et avoir toute la gloire, etc. » Et que Gédéon avait donc parlé avec eux et donc il avait évité un bain de sang. Mais c'est oublié que cette fois, Éphraïm n'a pas agi pour libérer Israël comme il avait fait du temps de Gédéon. Du temps de Gédéon, ils avaient combattu. Ici, ils sont venus non pour discuter ou manifester leur mécontentement, mais pour incendier la maison de Jephté et le brûler avec elle. C'est ce qui est écrit dans le texte. C'est pour cela qu'ils sont venus. Et Jephté pose une question. Jephté pose une question. C'est un homme de parole. On l'a vu avec le roi des Ammonites. On le voit ici. On le voit avec le vœu qu'il retient. Jephté pose une question. Pourquoi montez-vous contre moi? Pourquoi montez-vous contre moi? Cela indique clairement que ce n'est pas Jephté qui leur veut du mal. C'est eux qui sont venus pour brûler sa maison et le tuer. Il remet la vérité sur la table en disant qu'il les avait appelés, mais qu'ils n'étaient pas venus et qu'il s'était même exposé sa vie pour combattre contre les ennemis. En fait, comme face au roi Ammonite, il met la vérité et attend en fait qu'il réponde et qu'il se repente. Il est encore possible d'arrêter la guerre. Malheureusement, comme le roi Ammonite, les rebelles d'Éphraïm ne partent pas, mais livrent bataille à l'armée que Jephté a dû lever pour se défendre. Et quand les rebelles voient qu'ils sont battus, ils ne se repentent pas. Mais cherchent à rentrer chez eux sans que personne ne s'en aperçoive. Quand les rebelles voient qu'ils sont battus, ils ne se repentent pas. mais cherchent à rentrer chez eux sans que personne ne s'en aperçoive. Il faut juste comprendre un peu la notion géographique ici, hein. Donc les Éphraïmites ont dû passer le Jourdain pour venir se battre contre les Galadites. Donc tant qu'ils n'ont pas passé le Jourdain à nouveau, ils sont chez ceux chez qui ils voulaient faire du mal. Vous comprenez? Donc pour rentrer, il faut passer le Jourdain. En voilà qui arrive au Jourdain. Mais là, les hommes de Galad gardent le passage. Alors les hommes d'Éphraïm font semblant de ne pas être des hommes d'Éphraïm. Hein? Ils veulent passer, dire non, je ne suis pas d'Éphraïm. Hein? Mais là, leur accent les trahit. On dit ok, dis Shibboleth. Et là, les gens d'Éphraïm disent Shibboleth. Ok, on sait d'où tu viens. Comme la plupart des Suisses allemands ne savent pas prononcer le R sans le rouler, hein, ou donner une intonation qui les trahit. Hein, ou les non-arabes qui n'arrivent pas à faire le H aspiré comme dans Ehsan. Puis j'ai même pas bien réussi d'ailleurs. Je ne serais pas considéré comme arabe. Ou encore en anglais, hein, vous connaissez le TH, le V. Thank you, etc. Hein, donc on a de la peine à le faire quand on n'est pas anglophone. Un accent qui trahit. Pierre l'a vécu. Vous vous souvenez, Pierre, qui veut dire « Non, je ne connais pas Jésus !» Son accent galiléen l'a trahi. Les rebelles d'Éphraïm ne cherchent pas à se repentir, mais à éviter le jugement et retourner chez eux sans que personne ne les voie. Combien souvent c'est le cas quand on est dévoilé, quand notre péché est dévoilé. Oh, on veut se cacher. Personne ne voit rien. Mais l'accent révèle la langue parlée et la région d'origine. Comme les actions révèlent l'intention et la nature d'une personne. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi, pourrait-on dire, un mot de passe à dire, hein, qui détermine si quelqu'un est sauvé ou non, s'il fait partie du peuple sous jugement ou du peuple libre. Voici trois textes dans le Nouveau Testament. 1 Jean 4,2 qui dit ceci, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Dans 1 Jean 4,15, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et dans Romains 10,9, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Aujourd'hui, nous ne devons donc pas essayer de dire « Shibboleth » avec un bon accent. Ce n'est pas ce qu'on doit faire aujourd'hui. Hein, on ne doit pas chercher à dire « Shibboleth » avec un bon accent. Mais « Je crois que Jésus-Christ, qui est Dieu, est devenu homme. »« Je crois que Jésus-Christ, qui est Dieu, est devenu homme. »« Il est mon Seigneur et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. »« Il est mon Seigneur et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. » Et si je ne peux pas dire cela avec le bon accent du cœur, c'est là que l'accent arrive, hein. Si je ne peux pas dire ça avec le bon accent du cœur, l'accent du cœur, cela signifie une vie qui confirme ces paroles. Parce que dire ces paroles sans une vie qui les confirme, c'est pas avoir l'accent. On est reconnu, en fait. C'est le jugement qui nous attend, comme les Éphraïmites. Si on ne peut pas dire cela avec le bon accent du cœur, ce qui signifie avec une vie qui confirme ces paroles, c'est le jugement qui nous attend comme les Éphraïmites. Mais si vous pouvez dire, si nous pouvons dire, je crois que Jésus-Christ est Dieu, il est devenu homme, il est mon Seigneur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, avec l'accent du cœur qui est une vie qui confirme ses paroles, c'est la liberté et la vie éternelle qui nous attend. Délaissons l'orgueil, le mensonge, la moquerie, pour entrer dans la repentance, la reconnaissance de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous libère de l'esclavage du péché et nous donne l'héritage éternel. Alors pour conclure, rappelons-nous que dans l'histoire de rédemption, le récit de Jephté se situe dans le temps des juges, un temps en fait qui nous indique le besoin d'un libérateur, d'un conducteur parfait. C'est ce que le livre des juges en fait nous enseigne tout du long. Et il le fait aussi ici avec Jephté. Et Jephté, tout en étant un homme limité et pécheur, indique quelques éléments clés. Le premier, Jephté, le rejeté, devient le libérateur de son peuple. Comme Jésus, qui est cette pierre rejetée, qui devient la pierre principale de l'angle. Deuxièmement, Jephté remet la vérité en place et montre que ce sont les ennemis qui font le mal. Comme Jésus face aux pharisiens qui voulaient faire croire que c'était lui qui était dans l'erreur. Jésus remet simplement la vérité en place. Troisièmement, Jephté, pour la victoire, sacrifie ce qu'il a de plus cher et tient parole malgré la douleur de cette action. Eh bien, Dieu sacrifie son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, obéissant. Ce qu'il a annoncé depuis longtemps, il le réalise même si c'est horrible et douloureux. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous avons pu saisir un peu plus l'œuvre que Dieu a fait pour nous, ce que cela a coûté pour que nous puissions être sauvés. Et quatrièmement, Jésus agit en juge face aux rebelles qui se disent frères. Comme Jésus, Christ le fera à la fin des temps, et il nous dit, c'est Jésus qui dit, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Si Jephté pointe vers Christ, il nous donne aussi des leçons importantes. En revenant vers ses frères qui l'ont rejeté, il nous pousse à pardonner. Et toutes ces leçons, nous pouvons les vivre avec l'aide de Christ. Deuxièmement, en mettant le roi ammonite face à ses responsabilités, il nous pousse à dire la vérité en nous confiant en Dieu. Troisièmement, en tenant parole malgré un vœu difficile, il nous pousse à être prudents dans nos engagements et à les tenir. Et dernièrement, en utilisant un mot de passe qui révèle qui sont vraiment les hommes qui doivent le prononcer, il nous pousse à chercher un changement de cœur qui se manifeste visiblement par un témoignage agréé de Dieu. C'est ça notre mot de passe shibboleth, si vous voulez. Jephté n'est pas un exemple parfait, mais il nous pousse vers Christ de différentes manières. Nous ne sommes pas non plus des êtres parfaits. Est-ce que notre exemple pousse vers Christ de diverses manières? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, dans ta parole, il y a des textes qui ressemblent beaucoup à l'automne, où nous pouvons voir qu'il fait froid, qu'il commence à geler, que on a l'impression que la vie s'en va, qu'on peut voir que quelque part tout va vers la mort. Seigneur, nous voyons dans ce livre des juges et aussi dans ces chapitres que nous voyons ces côtés sombres et difficiles. Et Seigneur, nous ne comprenons pas tout dans ce texte. Mais Seigneur, nous te remercions parce que dans ces temps d'automne qui peuvent être, c'est vrai, difficiles, il y a aussi la beauté. Il y a aussi ces couleurs merveilleuses, il y a aussi cette espérance de la vie qui est plantée, qui reviendra au printemps. Et Seigneur, nous te remercions parce que ce texte nous permet aussi, non pas de nous accrocher à ce qui se passe dans cet automne, mais à regarder vers quoi il pointe, vers ce printemps Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, te louer pour cela, te dire merci et te prier de nous aider par ton esprit à saisir les éléments que tu veux pour chacun ce matin, que nous retirions de ce texte et que nous mettions en pratique, aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, pour t'adorer, te louer et te glorifier. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.